Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, bon début d'après-midi. Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Si je vous dis Clémence Desrochers, Yves Pépeltier, Claude Meunier, Simon Proulx, le chanteur des Trois Accords, Serge Chapleau, Claude Robinson, et je vous demande qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là. Oui, bien sûr, ce sont des artistes, mais ils ont surtout uni leurs talents récemment, soit comme scénaristes ou encore comme dessinateurs pour participer à une bande dessinée publiée par l'organisme Les Impatients qui s'appelle Un moment d'impatience, cette BD-là, et qui sert ou servira à financer les activités de l'organisme, à maintenir ou à développer les ateliers qui sont offerts, je vous le rappelle, aux gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale. En deuxième partie d'émission, je reçois le Dr Jean-Bernard Trudeau, lui qui est président du conseil d'administration de l'organisme et également secrétaire adjoint du Collège des médecins du Québec pour venir nous parler de cette bande dessinée-là. Mais d'abord, en avril dernier, Santé Canada prenait une décision, celle de transférer aux médecins la responsabilité de prescrire du cannabis à fin thérapeutique à leurs patients. Et c'est quand même intéressant de savoir que depuis ce temps-là, il y a 12 000 personnes, donc 12 000 patients qui se sont fait prescrire du cannabis médical, et ce, partout au Canada. Mais cette décision-là, on peut quand même se représenter assez facilement que ça amène des défis particuliers pour les professionnels de la santé et ça peut soulever des questions chez le grand public, dont moi. Et c'est pour ça que j'ai invité Denis Deblois, lui, professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, également co-directeur du groupe de recherche universitaire sur le médicament, à venir m'en parler, et ce, dans quelques instants. Bonjour, M. Deblois.
Oui, bonjour, Mme Paquette.
Cette décision, bon, je le disais, ça soulève beaucoup de questions, autant pour les experts, les médecins, autant pour le grand public, et des questions vraiment qui vont dans tous les sens, autant au point de vue médical, au point de vue légal, au point de vue scientifique. Et aussi, le Collège des médecins ne semble pas très, très content de cette décision-là. À savoir aussi, depuis... Bon, en avril, il y a eu cette décision-là de prise, mais avant, qui prescrivait le cannabis thérapeutique? Comment ça se passait?
En fait, avant le 1er avril 2014, il y a eu une période d'environ 14 ans au Canada où le patient pouvait avoir accès à du cannabis séché pour usage thérapeutique. Mais ce n'était pas le médecin qui prescrivait.
Okay.
Le médecin se limitait à faire un diagnostic. Mm-hmm. Et avec un diagnostic de certaines maladies qui avaient été identifiées par Santé Canada comme étant admissibles, le patient pouvait contacter Santé Canada avec son diagnostic et faire une demande d'autorisation de possession. Et ça, ça lui permettait... soit de produire lui-même son propre cannabis pour usage thérapeutique ou de s'en procurer d'une source commerciale. Il y en avait juste une au Canada.
OK.
Un producteur autorisé. Et,
il y en a 20 à peu près maintenant.
Maintenant, il y en a 20, oui. Parce que depuis le 1er avril, avant le 1er avril, les médecins qui prescrivaient le cannabis, ils revoyaient rarement leurs patients. L'accès au cannabis était continu, mais il n'y avait pas de suivi. Et ça, c'est un problème parce qu'on ne pouvait pas vérifier si c'était efficace, s'il y avait des effets secondaires, s'il y avait des ajustements de dose. Et ce que Santé Canada a décidé de faire le 1er avril, avec la nouvelle réglementation là, qui réglemente la marijuana à des fins médicales essentiellement, on ne parle pas de récréation, là.
Oui, oui.
C'est que eux, ils ne veulent plus savoir qui a quelle maladie. Là, ils disent que les médecins devraient faire le diagnostic, faire la prescription. Et ensuite, le patient doit absolument, obligatoirement s'approvisionner auprès d'un de ses 20 fournisseurs.
Il peut mandaté plus par Santé Canada ou accrédité, mettons.
Et il ne peut plus faire pousser son propre cannabis. Ça, c'est un irritant, évidemment, pour les utilisateurs, parce que ça coûte plus cher.
Mm-hmm.
Mais ça amène un standard de qualité dans les produits qui sont utilisés. Donc, le cannabis séché, maintenant, est d'une qualité... En fait, on vise une qualité constante avec une meilleure connaissance de ses constituants.
Mm-hmm. À qui on prescrit du cannabis à fin thérapeutique?
Les patients qui ont des douleurs chroniques, souvent des douleurs d'origine nerveuse, les nerfs sont affectés, et pour lesquels les autres médicaments sont inefficaces. Donc, il y a beaucoup de gens mm-hmm. pour qui les opiacés, par exemple, sont inefficaces. Ces gens-là ont des douleurs réfractaires, c'est bon pour eux autres, ils sont autorisés. Les gens qui ont des douleurs, des problèmes neuromoteurs, comme la sclérose en plaques,
ouais.
ça cause des spasmes. Les gens qui souffrent de nausées, vomissements... suite à la chimiothérapie ou qui perdent du poids à cause de leur ou perdent l'appétit à cause de cancer ou de chimiothérapie, ces gens-là peuvent bénéficier, les données suggèrent qu'ils peuvent bénéficier du cannabis séché. Le problème avec l'ancienne réglementation, c'est que on contrôlait mal la qualité de ce qui était utilisé.
Mm-hmm.
Ouais, c'est
ouais,
ça. Et on voyait pas les patients, donc on pouvait pas accumuler des données. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'études très petites qui tendent dans la même direction en disant ben ça semble efficace. Mais on a besoin de données plus solides pour dire bon ben c'est telle dose de THC, par exemple.
Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Denis de Blois, à savoir que le Collège des médecins du Québec semble plus ou moins favorable à cette décision-là parce que eux, ce qu'ils tentent de soutenir, c'est que c'est pas vraiment reconnu le cannabis dans le traitement de différentes pathologies chez les gens.
Tout à fait. Alors, ils ont raison. Cannabis séché, c'est pas un médicament au Canada. C'est, par contre, l'accès au cannabis séché pour les patients qui souffrent de ces maladies réfractaires est garanti par la Charte des droits et libertés. Mm-hmm. Depuis l'an 2000, il y a eu une décision de la Cour en Ontario qui se basait sur l'article 7 qui garantit à tout citoyen l'accès à la sécurité. Pour ces patients qui n'ont pas d'option thérapeutique, le cannabis, on peut pas raisonnablement leur priver de l'accès au cannabis parce qu'il y a des indices comme quoi ça pourrait être efficace. Donc là, les médecins sont vraiment pas contents parce qu'ils ont la responsabilité
ouais.
de prescrire quelque chose qui n'est pas vraiment un médicament.
Et des fois, ils ne le connaissent pas aussi, j'imagine, tant
exactement.
Que ça.
Exactement. Ouais. Non, et c'est ça. Ils ne connaissent pas parce que ce n'est pas un médicament. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas informés. Donc, le Collège des médecins a recommandé de prescrire le cannabis séché dans le cadre d'un projet de recherche.
Mm-hmm, ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que le médecin a épuisé les options thérapeutiques conventionnelles, il peut proposer à son patient l'accès au cannabis séché. Mais à ce moment-là, le patient doit signer un formulaire de consentement, comme quoi son nom, sa condition clinique, les doses vont être colligées dans une base de données.
Mm-hmm.
commune, qui va pouvoir être utilisée pour faire un suivi de ces patients-là à la grandeur de la province, mais aussi du Canada.
Mm-hmm.
Et ce qu'on espère en faisant ça, c'est éventuellement en arriver avec suffisamment de données solides pour dire oui, chez les patients souffrant de sclérose en plaques, par exemple, le cannabis séché est efficace et c'est ce type de cannabis qui fonctionne.
Oui, parce que parmi les 20 fournisseurs accrédités par Santé Canada, ils cultivent ces gens-là plusieurs types, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a à peu près 30 types de cannabis.
Oui, en fait, si on va sur le site web d'un de ces fournisseurs-là, on peut voir une douzaine de souches différentes.
Ouais.
Et les pourcentages de produits actifs varient, mais ils sont connus. Donc, c'est ça, c'est une des beautés de la nouvelle réglementation, c'est que ça force les producteurs à faire des analyses chimiques et de garantir, par exemple, saviez-vous qu'il y a environ 70 cannabinoïdes dans la plante qu'on peut fumer ou absorber? Okay. Il y en a deux majeurs qui semblent pas avoir les mêmes effets. Il y en a qui semblent être plus anti-inflammatoires, analgésiques. Il y en a d'autres, c'est plus un effet relaxant musculaire. Donc, les pourcentages de l'un et de l'autre varient d'une plante à l'autre. Alors, le médecin, à ce jour-là, on n'a pas de données suffisantes pour dire ben, c'est tel profil, ouais, tel pourcentage. Mais ça va venir.
Les médecins seront-ils formés afin de mieux prescrire le cannabis à des fins thérapeutiques? Parce que le patient arrive, par exemple, avec la sclérose en plaques. OK, parmi les 30 types, qu'est-ce que je peux bien lui prescrire? Ça peut devenir un casse-tête.
Oui, ça peut venir un problème. Et là, c'est là que l'accumulation graduelle des données sur les patients va être utile. Donc, au début, c'est sûr que ça va se faire un peu par tâtonnement. Et,
oui.
Les médecins qui vont prescrire le cannabis, moi, je peux imaginer les médecins spécialistes dans les centres qui traitent des cas graves, par exemple de sclérose en plaques ou de douleurs chroniques. Et il y a certains de ces patients-là là, où on a épuisé toutes les options thérapeutiques. Non. Là, ces patients-là ces médecins sont vraiment à l'extrême limite de la recherche et eux s'informent. Okay? Donc, eux, ils s'informent puis ils font progresser les connaissances en testant des combinaisons de cannabis. Il faut dire qu'il y a deux médicaments approuvés au Canada avec du cannabis synthétique, okay? Par voie administrable, par voie orale. Donc ça c'est une option thérapeutique que les médecins peuvent considérer.
Et j'imagine qu'on ira également par essai et erreur en ce qui a trait aux doses, par exemple, recommandées, à la fréquence également.
Oui. Il y a déjà un petit peu de données dans la littérature, mais encore une fois, c'est trop fragmentaire. Donc, de ce côté-là, et ça va se faire par des médecins qui s'intéressent à la chose, donc qui sont prêts à s'investir dans le suivi des patients, l'évaluation des meilleures options dans de cannabis séché, les pourcentages qui ont le plus de chances de fonctionner. Donc, là, on peut imaginer, en plus des spécialistes auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, on peut imaginer des médecins qui s'informent tout particulièrement, qui acquièrent une expertise dans si vous voulez, dans le domaine du cannabis séché.
Mm-hmm.
Et là, on peut imaginer des cliniques, comme il y en a une qui est ouvert à Montréal.
Oui, pas loin, justement, ici de la station, sur Amherst Santé Cannabis. Et lors de notre dernière conversation, Denis Deblois, vous me disiez, ben, je pense que c'est une bonne idée.
Pour la simple raison que ça va permettre aux médecins qui ne veulent pas se commettre à prescrire l'accès à une substance séchée qui est quand même psychoactive, donc il y a toutes sortes de problèmes, là. Il y a des risques qui sont associés à ça.
Ouais.
Et peut-être qu'ils veulent s'en référer à des médecins pour qui la gestion du cannabis séché comme option thérapeutique est plus familière. Donc,
ouais,
on peut imaginer ça, OK? Mais là, il y a un problème pour ces médecins-là. Ils vont avoir affaire à deux types de patients. D'une part, il y a le patient qui peut rentrer dans leur cabinet et parler de sa maladie.
Mm-hmm.
Et toutes les options thérapeutiques sont sur la table, dont le cannabis séché, mais c'est une des options.
Mm-hmm.
Et ça va être difficile pour eux de distinguer ce patient-là de l'autre patient pour qui, en rentrant au cabinet du médecin, c'est pour lui une étape vers l'accès au cannabis.
Oui, ben oui.
Il rentre en parlant de la médication, de l'accès au cannabis séché. Il ne veut pas entendre parler des options alternatives.
Autre, oui.
Et ça va être un problème pour eux de gérer, de filtrer. Et on espère que...
Ça fait partie des risques, Denis Deblois. Est-ce qu'il y en a d'autres risques? Je reviens un petit peu à cette interpellation-là que j'ai par rapport à l'accoutumance, ça crée une dépendance. Est-ce que ça peut devenir un risque? Je veux dire, j'imagine que c'est pas pire qu'aux opiacés, par exemple, mais ça demeure quand même là.
C'est le risque de dépendance, et il est réel. On estime environ 8% des utilisateurs de cannabis développent un comportement de dépendance, là, c'est-à-dire que ça influence leur vie quotidienne, la recherche et la consommation, un impact sur leur vie, le fonctionnement quotidien de leur vie. Ils sont prêts à arrêter. Donc ça existe. Les risques sont multiples. C'est une substance psychoactive. Donc il peut y avoir des désordres cognitifs, moteurs. Ça peut causer des étourdissements. Donc certains des désordres cardiovasculaire, le cœur qui débat, ça peut causer des attaques de panique chez certaines personnes qui ne sont pas habituées. C'est pour ça qu'on recommande aux médecins de commencer avec des doses très faibles et graduellement augmenter.
Mm-hmm.
Mais un des problèmes les plus graves, c'est le risque de développer des psychoses chez certaines populations. Il y a plusieurs études qui montrent que l'accès au cannabis chez des adolescents,
mm-hmm.
Ou des enfants, certainement les adolescents, augmente le risque de développer des épisodes de schizophrénie et augmente la gravité des épisodes.
Okay.
Si les gens ont des prédispositions, c'est pas tout le monde là, qui est exposé à ça, mais il y a un risque de développer chez les gens qui sont vulnérables ce genre de comportement ou de maladie. Par ailleurs, il n'y a personne qui est mort d'une overdose de cannabis, contrairement aux opiacés.
J'imagine aussi que pour le praticien, pour le spécialiste, l'expert en santé, c'est difficile d'évaluer ces risques-là, de se dire est-ce que la personne qui est devant moi est à risque de développer une psychose, quoi que ce soit. C'est encore un peu de l'essai et erreur là, dans ce cas-là.
Bien, vous savez, la recherche, c'est comme ça que ça avance.
Oui.
OK? Mais les essais se font dans un cadre où on cherche à contrôler la qualité de ce qu'on administre. Donc, c'est à peu près toujours la même chose où on sait qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on administre. Ça c'est important. Donc, la nouvelle réglementation répond à cette condition-là. La deuxième condition, c'est le suivi. Pour vérifier si le bénéfice est plus important que le risque. Et ça, c'est le médecin qui va faire ce suivi-là. Donc, la réglementation actuelle, la nouvelle, répond aussi à ce besoin-là.
Oui. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment des pour et des contre, et ça sera à suivre de près dans les prochains mois, prochaines années également. Denis Deblois, vous êtes professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, également co-directeur du groupe de recherche universitaire sur le médicament. Et vous faites partie de ces gens qui organisent des conférences, des discussions avec des professionnels de la santé pour mettre de la lumière sur cette question-là. Merci beaucoup de votre participation.
Oui, si je peux rajouter, il existe, pour les médecins qui s'y intéressent à ce projet de recherche, le Consortium canadien pour l'investigation des cannabinoïdes, qui monte cette base de données pour le suivi des patients.
Et on peut y avoir accès de quelle façon?
Ils ont un site web, le Consortium canadien pour l'investigation des cannabinoïdes, ont un site web. Donc, ils ont une façade, une visibilité publique, si vous voulez, mais ils ont également des services pour les praticiens de la santé qui s'intéressent à la prescription de cannabinoïdes et le suivi des patients.
Oui. Alors, on pourra peut-être mettre un petit lien sur notre site à cet effet. Merci beaucoup.
C'est bien.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialevusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, /M.
Bonjour, Jean-Bernard Trudeau.
Oui, bonjour, Mme Paquette.
Pourquoi après coffrets de lettres d'amour, des albums de duo improbables, une BD maintenant pour les impatients?
Ça a été des formules gagnantes et on compte bien que ça soit une formule gagnante aussi pour la bande dessinée. Mais à l'origine de tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'on a un produit comme ça qu'on rend public, c'est toujours en lien avec un des ateliers qu'on développe aux impatients, donc avec les coffrets d'amour en lien avec nos ateliers d'écriture, le CD du improbable en lien avec notre atelier de musicothérapie et la BD, mais un moment d'impatience, en lien avec notre atelier de bande dessinée.
Il y avait aussi d'autres objectifs derrière cette BD-là.
L'objectif, c'est toujours de rendre un peu visible l'invisible. Vous savez, à travers cette BD-là, on retrouve des gens très connus, des BDistes connus, d'autres moins, mais on retrouve surtout aussi des impatients. Donc, c'est une façon pour nous de rendre visible la santé mentale, de faire en sorte de passer un message auprès de la société comme quoi les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes psychiatriques, ont droit au chapitre aussi. Et c'est pas parce qu'ils vivent ces problèmes-là qu'ils n'ont pas de talent, ils n'ont pas certains autres attributs là, qui peuvent faire en sorte qu'ils puissent contribuer dans la société. Fait que c'est sûr et certain qu'en bout de piste, là, de s'attaquer aux préjugés et aux stigmas, là, c'est une mission importante qu'on a à travers les produits qu'on rend visibles comme ça.
Il y a 4 bénéficiaires qui ont participé à un moment d'impatience, votre bande dessinée. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Et avant, j'ai trouvé bien mignon de vous lire quand vous avez mentionné, avec fierté, il paraîtrait, on ne peut même pas déceler si c'est eux ou un dessinateur professionnel qui a fait les dessins. Ça leur a apporté quoi de participer à cette BD-là?
Ah, écoutez, c'est la fierté d'abord et avant tout, comme on dit toujours, puis je le remarque aussi dans la BD, dans mon mot d'ouverture. Notre premier objectif, c'est de sortir les gens de l'isolement. Alors, quand on a un problème de santé mentale, encore à cause des préjugés, on est porté à s'isoler. Une fois qu'on réussit à créer l'intérêt par rapport à nos ateliers, ben c'est de créer de l'espoir à travers nos différents médiums, que ce soit la BD, la musique, la poterie, la peinture ou tous les autres. Et une fois qu'on a identifié les talents et qu'on le fait grandir avec nos professionnels en atelier, ben c'est de cultiver la fierté. Et ça, c'est incroyable. Vous savez, si vous venez à nos ateliers, si vous venez à nos activités, les personnes qui ont contribué aux différents produits vont se présenter avec fierté et vont vous dire qu'ils sont des impatients et qu'ils en sont fiers aussi.
Ouais. Les histoires qu'on peut retrouver à travers la BD, quelles sont-elles?
Pardon?
Quelles sont les BD, si vous pouvez nous en relater quelques-unes, les BD qu'on retrouve au sein d'un moment d'impatience?
OK, les différents. Ben, écoutez, c'est 21 moments d'impatience qui ont été scénarisés donc par différentes personnes, dont des impatients. Et 21 dessinateurs différents qui n'étaient pas connus des personnes qui ont scénarisé et la personne qui dessinait connaissait pas non plus la personne qui l'a.
Donc, c'est un blind date!
Oui, c'est un blind date, c'est ça. Ben, écoutez, il faut surprendre en santé mentale si on veut pouvoir se démarquer. Et l'objectif de cette BD-là, c'est de surprendre la population par l'approche qu'on a prise. Donc, ça tire dans tous les sens. Par rapport au moment d'impatience, on a la délicieuse impatience qui nous rappelle que Jules Verne, en écrivant son roman Michel Strogoff, dans un moment d'impatience, a été à l'origine du steak tartare, par exemple. Mm-hmm. Ensuite, on a l'impatience d'une mère, on a l'impatience d'une fille, on a l'impatience en vélo, on a l'impatience médicale, on a l'impatience au palais de justice, on a l'impatience en psychothérapie. Et on en a 21 comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les scénarios aussi vont dans tous les sens et les dessins vont aussi dans tous les sens. Et ça permet de faire aussi reconnaître nos talents au Québec BDistes qui, curieusement, sont parfois plus connus en Europe qu'au Québec même. Donc, il y a des notes biographiques qui accompagnent chaque personne qui ont scénarisé, qui ont dessiné dans la BD. Ça permet de les redécouvrir
en même temps qu'on découvre le talent de nos impatients.
Est-ce que vos bénéficiaires ont pu être mis en contact avec ces artistes-là?
Ah ben oui, écoutez, ouais. On a fait des lancements et puis des séances de signature. Lors du lancement officiel, on avait une grande table, là, 22 personnes alignées une en arrière de l'autre avec des gens qui faisaient la file pour avoir une dédicace de chacun. Et les impatients étaient distribués là, de façon aléatoire là, avec et les dessinateurs et les scénaristes.
Donc, encore là, une belle fierté pour eux. Ce que je lisais également, c'est que ça pourrait être une façon de faire connaître les impatients, cet organisme, un petit peu partout au Québec et pas seulement à Montréal où on vous connaît bien, on connaît vos actions. Parce que là, bon, vous êtes à Drummondville, Granby, si je ne me trompe pas, Saint-Lambert. Est-ce qu'il y a des visées pour s'installer ailleurs?
Oui, bien tout à fait. Ça fait partie de notre planification stratégique. On a une formule unique et magique, j'oserais dire, les impatients. Et dans le cadre de la planification qu'on a fait il y a quelques années, on veut vraiment s'étendre au Québec. On a aussi à Saint-Sauveur, avec lesquels on fait une collaboration dans le cadre de l'exposition Parlez-moi d'amour, mais où on va développer aussi un atelier des impatients. On a des discussions actuellement avec Sorel, avec Joliette, ça devrait voir le jour dans la prochaine année. Mm-hmm. Des discussions aussi avec Sherbrooke. On souhaite bien aussi, lors du Salon du livre, quand on va aller à Gatineau à la fin du mois de février, voir ce qu'on peut faire avec l'Outaouais, puis des discussions aussi avec la Gaspésie. Écoutez, tous les endroits où c'est possible de faire connaître et de permettre aux impatients de s'installer, on va faire une grosse différence pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et là, on va être au Salon du livre pour 6 séances de dédicaces dans les prochains jours aussi.
Donc, les gens peuvent aller vous rencontrer, rencontrer les artistes qui ont participé à un moment d'impatience également. Ils seront présents?
Oui, c'est ça. Ben, écoutez, ils ne sont pas tous présents, mais on a des séances.
Oui, ça fait pas mal de monde.
Oui, c'est ça. Demain, vendredi, 16h30 à 17h30 et 19h à 20h30. Samedi, moi, je vais être là avec deux dessinateurs, dont Mario Malouin, qui a coproduit la BD d'une certaine façon, qui a fait toute la coordination avec Patrick Verdant, deux dessinateurs bien connus qui vont être là aussi en soirée. Et dimanche, il y a Dr Lamontagne, l'ancien président du Collège des médecins, qui va être aussi présent en après-midi.
Et sinon, on peut se la procurer dans les Uniprix.
Dans tous les Uniprix et dans toutes les librairies aussi au Québec, là, depuis 10 jours maintenant, là, on encourage vraiment les gens là, à ouvrir la BD aussi parce que vous allez la voir, elle est éclatante là, par sa page couverture. Mais en plus, on a deux pièces uniques qui nous ont été données par Frédéric Bach et Claude Robinson. Frédéric Bach avec qui on a eu la chance de s'entretenir quelques semaines avant son décès et qui tenait absolument à faire partie du projet. D'où la pièce unique qui nous a léguée juste avant de mourir.
Et c'est un magnifique cadeau de Noël. Dr Jean-Bernard Trudeau, vous êtes président du conseil d'administration de l'organisme Les Impatients, secrétaire adjoint du Collège des médecins du Québec. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler.
Merci, à la prochaine, merci.
C'était Marianne Paquette, merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Je vous embrasse, portez-vous bien.